cuse chiuso, mare cuse chiuso, ma come on activity, on activity, on activity.
Quand c'est subtil, quand tu dis que la police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, en plus jamais la loi des trames. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les fans que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'aide nous perde son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait tabasser.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tchékars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans, je dois m'habituer, c'est là-dedans, j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris. Les murs, les esprits, les rats la nuit, on veut s'échapper de la prison.
Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonsoir.
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 Vous êtes bien à l'écoute de Radio Kaleidoscope 97 FM et tout de suite, c'est l'émission Les Murs ont des oreilles, une émission contre toutes les prisons que vous pouvez écouter tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 19h à 20h. Du coup, ce soir, on va parler de la répression en Espagne sur les milieux anarchistes, libertaires de ces derniers temps. Et puis voilà, et tout de suite, on va commencer.
Donc, en fait, on peut rappeler que la répression qui a lieu actuellement en Espagne, en fait, c'est un contexte un peu plus global de ce qu'on peut appeler l'ennemi intérieur. Et pour faire le lien avec ce qu'on avait déjà vu sur l'émission sur l'état d'urgence, l'état d'urgence a été fait pour pouvoir faire la guerre sans dire qu'on est en guerre. En gros, c'est pouvoir faire la guerre à l'intérieur du pays, employer les forces armées, employer tout un paquet de trucs un peu dégueux comme ça. Et donc l'état d'urgence pour la France a été fait, c'était la guerre d'Algérie. Justement, comme théoriquement l'Algérie, c'était un territoire français, machin, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient en guerre et tout ça. Et après, donc, le concept d'ennemi intérieur, ça a été plus théorisé dans les années 70, pour le coup. Enfin, théorisé par les États. Là, c'était surtout par l'Angleterre avec quand ils ont fait de la grosse répression sur les mouvements irlandais, sur ce qui se passait là-bas. Et après, du coup, on a eu en Italie aussi, avec les années de plomb, avec des attentats qui étaient attribués à des militants révolutionnaires, alors qu'ils y étaient pour rien du tout, mais que ça a permis de dire qu'il y avait des terroristes, tout ça, de fliquer tout le monde, d'incarcérer tout le monde pour pas grand-chose. Sur l'état d'urgence, donc on vous a déjà parlé pas mal. Actuellement, ça sert surtout quand même essentiellement à fliquer essentiellement plutôt les musulmans, les musulmanes en France. On avait déjà vu, il y a plein de gens qui se font arrêter pour vraiment rien du tout. Du style, un gars qui se rase, il se récupère l'antiterroriste chez lui. Et un peu avant, on avait eu, dans un contexte un peu différent, où là c'est plus pour les trucs politiques, révolutionnaires, c'est le cas de Tarnac, où là c'est pareil, c'est des gens qui se sont pris l'antiterrorisme, enfin tout plein de trucs comme ça sur le coin, et où pareil, des gens se finissaient en garde à vue ou en tôle juste parce qu'ils avaient un ou des bouquins un peu révolutionnaires, tout ça chez eux. Et de dire aussi que c'était pas, même si ça portait pas exactement ce nom-là ni rien, mais que c'était des trucs qu'on retrouvait à l'international assez facilement. Parce que j'ai noté des trucs, que ce soit du Mexique à l'Iran ou la Turquie, enfin par exemple les Kurdes qui s'en mangent en fait plein et qui servent de... Enfin, ça sert beaucoup à la Turquie et à l'Iran pour faire de la répression sur des opposants politiques et avoir un ennemi à l'intérieur même du territoire. Et donc voilà, et sinon le truc après c'était de concilier les lectures de L'ennemi intérieur de Mathieu Rigoust qui parle de ça.
Et du coup, ben, en Espagne, ces derniers temps, il y a eu de la répression, des arrestations, des emprisonnements. Et il y a encore des personnes qui sont en prison et qui ne savent pas encore quand seront leurs procès. Et du coup, à Toulouse, il y a 2 semaines, si je me souviens bien, il y avait un festival d'autodéfense populaire organisé par le collectif de la CREA. Campagne pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion à Toulouse, et c'était 10 jours de discussions autour de plein de luttes différentes. Et du coup, il y avait notamment un collectif de Madrid qui venait et qui parlait un petit peu de tout ce qui s'est passé en Espagne. Du coup, voilà, on a enregistré leur intervention et du coup, on va vous laisser écouter tout ça. Ça explique pas mal ce qui se passe là-bas.
Bon, je ne sais pas si tout le monde connaît la Five Free, c'est la Fédération anarchiste insurrectionnelle. Et c'est un groupe, c'est une coordination, une fédération informelle des groupes qui a commencé en Italie, en Grèce, mais qui à l'Espagne, il n'y a pas eu des groupes fédérés. Et le principe de fédération de la Five Free, c'est un peu bizarre, c'est plutôt comme l'ALF, il y a une charte à laquelle si tu t'adhères, bon, c'est ça, tu es dedans. Et ils ont essayé, avec les liens avec les Chiliens, Gabriel Pombasil a délié tous les GAC, ces groupes anarchistes coordonnés avec la Fédération anarchiste interrégionale. Et après, c'était pas que ça, donc ça a été la première le 16 décembre 2014. Et le 31 mars 2015, il y avait une autre plus grosse opération, qui s'appelle l'opération Piñata, qui va raconter. Ouais.
Ben oui, après ça, ils ont commencé avec une autre nouvelle opération, opération Piñata. Et c'était surtout à Madrid, mais c'était aussi à Barcelone, Granada, Valence, il y avait un peu partout en Espagne. Et du coup, ils ont aussi fait le même type de d'opérations, en entrant dans les squats, en enlevant tout le matériel, en prenant l'argent du squat et l'argent des différents collectifs comme une preuve aussi que c'était de l'argent qui était destiné à ces groupes terroristes, non ? Et ils ont pris beaucoup de personnes parce qu'il y a eu un peu de résistance, mais ils ont seulement accusé une partie. Il y avait seulement 15 personnes, je pense, ouais, 15 personnes qui étaient accusées aussi de appartenance à un groupe terroriste. Et du coup, c'était une année plus tard. Et après, quelques mois plus tard. Et après, il y a 5 personnes qui ont pris des mois de prison provisoire. Pendant
4 mois en fait.
Pendant 4 mois, oui. Pendant 4 mois, ils sont passés. Ils ont été en prison provisoire sans aucune. Le problème, c'est que quand on t'accuse de appartenance à un groupe terroriste, ils ne te donnent pas une accusation en ferme et du coup, tes avocats, ils ne savent pas très bien de quoi on t'accuse et ils peuvent pas construire une bonne défense parce qu'ils savent pas quelles sont les charges en fait.
Il y a par exemple pendant l'opération Piñata les Sumers qui racontent les accusations et tout ça, il y a sorti les 1er juin et l'opération c'était le 31 mars et l'excuse qu'utilise la police c'est que en fait les enquêtes ils sont pas finies Donc c'est une grosse pression parce que surtout dans l'opération Piñati, ils ont touché des villes tout petites, donc les gens se connaissent. Donc tu ne sais pas si le lendemain ils vont arriver chez toi. Il y a un truc qui est vraiment frappant, c'est qu'ils ont pris que la thune de les collectifs. Ils sont rentrés dans des apparts des colocs, des copains et copines, ils ont pris l'argent personnel et ils ont pris ses affaires. Comme preuve de que même dans les maisons, si j'avais des, je sais pas, tu as ton salaire gardé dans une boîte de 400, 600 balles et il embarque parce que c'était l'argent pour mettre des bombes.
Ils avaient comme preuve, par exemple, d'avoir réquisitionné 10 000 euros en, je pense que c'était 10 maisons et centres sociaux. Et ça, pour eux, c'était une preuve, non, d'avoir autant d'argent en liquide. Comme si, comme s'il y avait des gens dans ce million-là qui aiment avoir tout dans leur banque, non? Et du coup, ouais. Après ça, il y a eu Opération Pandora 2. Non? Il y a quelque chose d'autre ou non?
Bon, raconte après. Il y a un truc qu'il faut raconter, c'est bizarre parce que, en fait, il y a ça aussi preuve que les institutions de l'État, ils marchent pas tous dans le même sens. En fait, l'opération Pandora qui a eu lieu le 16 décembre 2014, ça a été pensé avec le ministère de l'Intérieur comme la deuxième partie de l'opération Piñata qui a eu lieu le 31 mars 2015. Mais comme c'était la police régionale à Catalogne, c'est ce qui va faire l'opération, ils ont décidé de la faire en avance. Comme ça, il peut gagner les points de bon, on a arrêté un bande terroriste. Parce que ça a été aussi dans les moments dans lesquels tout le mouvement indépendantiste institutionnel a commencé à montrer la décision de s'indépendiser de l'Espagne.
Et après, il y a eu l'opération Pandora 2. Et je vais raconter un peu avant qu'en Espagne, il y avait la ETA avant. Et maintenant, ils sont en train de faire un peu l'alliation entre que les anarchistes ont la même manière de nous organiser et de capter de l'argent que l'ETA. Et aussi, dans l'ETA, il y avait les avocats qui étaient dans le mouvement. Et pendant l'opération Pandora 2, une des personnes qui l'ont arrêté, c'était un des avocats, en fait. Et qu'il commence à faire beaucoup, beaucoup de questions, au moins pour moi, c'est important de le dire, parce que maintenant qu'il n'y a pas l'ETA à l'Espagne, il cherche un autre groupe terroriste. Ils ont décidé que c'est les anarchistes et ils commencent à faire beaucoup de parallélisme aussi dans la manière de financiation des centres sociaux et les bars, que c'est un peu la même qu'il y avait l'été avant. Et pendant Pandora 2, c'est ça, qu'ils ont arrêté 9 personnes et ils ont parti en prison préventive. Et surtout, l'opération s'est touchée à Barcelone.
C'était des satanés libertaires des quartiers qui ont été complètement banalisés. Il y a des photos sur Internet qui montrent. En fait, c'est des opérations antiterroristes, donc c'est pas que les CRS qui rentrent, c'est les groupes d'opérations spéciales de la police. Donc ils rentrent, ils cassent tout, en mode, ils rentrent par les murs, ils rentrent pas par la porte, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir des explosifs à l'entrée. Donc ils cassent les murs, ils sont niqués tous les... Il y avait dans un des satellites, il y avait une grosse bibliothèque, ils ont démonté tous les placards et tous les armoires, et ils ont niqué tous les bouquins, et ils ont pris quelques-uns. Ils prennent tout le temps les ordinateurs, les clés USB, et l'argent. Et après, c'est ça. Là. Et tout le temps, quand il a une opération policière qui finit, il a un communiqué de l'instance gouvernative correspondante qui dit en fait, l'opération n'a pas fini, il y aura plus CR, s'inquiète. Il y a risque de fuite, donc on va mettre tous les gens en prison provisoire. Et oui, c'est ça.
Et quelque chose qui se suit aussi dans toutes les opérations, c'est que les médias ont été présents dès le même moment où il y avait des opérations. Des fois, c'était la police qui donnait les informations directement à la presse. Et du coup, les médias, ils ont servi aussi à la répression et à faire que toute la société voit les groupes anarchistes comme un ennemi, non? Et du coup, la presse a été aussi un arme contre le mouvement anarchiste, en fait. Ça a été quelque chose qui a aidé beaucoup, non, dans la répression, et que ce soit quelque chose qui se voit bien, quoi.
Ah, en fait, on s'est rendu compte, en train de faire des recherches sur les grosses médias,
que les personnes qui sont signées, les articles qui racontent les affaires autour des opérations anti-anarchistes, c'est les mêmes personnes qui, depuis des années, donc il y a une journaliste dans Le País, que c'est le journal à gauche, qui vient de signer des articles contre les mouvements sociaux et spécifiquement contre les mouvements anarchistes depuis 15 ans. Et aussi à des copains et copines qui ont fait des recherches, ils ont vu que c'est les mêmes personnes qui faisaient les informations dans les tribunaux et surtout les informations dans les tribunaux avec les juges qui a jugé trois des cinq opérations. Parce qu'en fait, il y a des juges qui sont jugés tous les. Qui sont, je ne sais pas si existent les juges d'instruction, la personne qui signe l'enquête. Donc il y avait deux juges pour toutes les cinq opérations. Et un de l'ED s'appelle Eloy Velasco. Il a été aussi dans des différentes opérations de répression contre le mouvement social en Espagne. Et il y a deux ou trois journalistes qui travaillent salariés dans les différents gros médias au niveau étatique qui signent tout le temps des articles qui racontent leur vision, la vision des tribunaux, la vision de la police. Et il y a aussi des communiqués de presse de la police qui sont été signés comme des vrais articles signés par des journalistes. Et c'est les mêmes communiqués que tu peux trouver dans la page web de la police régionale à Catalogne. C'est l'article qu'après ça passe dans les journaux.
Ouais. Il y a seulement la signature qui change. Genre la police, elle passe le rapport. Il y a le journaliste qui signe après. Après, il a ce journaliste-là dont tu parles, il a reçu un prix, il a reçu un prix de la police, quoi, comme bon journalisme. Et du coup, c'est ça, les médias ont eu beaucoup d'importance dans toutes ces opérations policières là et dans toute la répression qu'il y a eu, en fait.
Au niveau de l'opération passe, il a des petits articles qui passent dans la presse internet. Le lendemain, ou même les mêmes jours, il y a les journaux des nouvelles dans la télé qui ouvrent le journal. Grosse opération policière contre le terrorisme. Il y a la police en train de taper contre les portes. Après, le lendemain, tous les journaux, ils ouvrent la première page avec des photos. En fait, en Espagne, il y a pas mal d'opérations policières antiterroristes. Assez souvent, même contre les anarchistes, il y a aussi toute une affaire contre les mouvements indépendantistes à Galice. Il y a aussi des enquêtes, des répressions, des centres dans les centres sociaux et évidemment contre les terroristes.
Mais pour comprendre tout ça, je pense que c'est important aussi de voir que, en fait, ils ont changé le code pénal pour te définir comme groupe terroriste. Il faut trois choses. En fait, en 2010, ils ont changé le code pénal pour définir l'organisation de terroristes. Parce que, ouais, comme maintenant, l'État n'était plus si actif, bah, ils devaient chercher le nouveau ennemi interne, non? Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont amplifié la définition de terrorisme pour que tout le monde puisse rentrer dedans. Du coup, pour être terroriste maintenant, il faut qu'on soit organisé. Il faut que tu aies une intention de subvertir l'ordre qu'il y a maintenant. Je veux dire, subvertir l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire n'importe quel groupe politique devrait aspirer à ça, non ? Devrait aspirer à subvertir l'ordre constitutionnel. Et après, comme troisième partie de la définition, c'est... tu dois être, le groupe, il doit être violent. Il doit utiliser de temps en temps des moyens violents. Du coup, il laisse comme ça la définition, des moyens violents. Des moyens violents, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, bloquer une rue, faire des manifs sauvages, ça peut être... Parce qu'à la fin, ils n'ont pas des actions concrètes contre ça. Ça peut être même un artefact... Une bombe incendiaire contre une bombe, quoi. C'est rien du tout, quoi. C'est des trucs matériels, tu vois. Et du coup, ils ont fait ça pour pouvoir faire une répression contre tout le mouvement social, contre n'importe quel mouvement social, et appliquer la même définition à, à les groupes indépendantistes de Galice ou aux anarchistes ou à n'importe qui en fait.
Les mouvements, c'est qui c'est ici l'équivalent au DAL. En fait, là-bas, ils luttent pas contre l'expulsion des logements, ils luttent contre l'expulsion des maisons que les gens ils ont achetées. C'est les mouvements anti-désaucios. Ils ont appliqué cette définition de terroriste parce qu'ils faisaient des harcèlements contre les politiciens. Ouais. Donc c'est si large. Donc et c'est vraiment facile et surtout dans la presse, il y a tout un bombardement à chaque fois qu'il y a des mobilisations sociales, n'importe pas si ça c'est violent ou pas, même des grosses manifs qui bloquent en ville pendant un jour, c'était déjà nommé comme des actions terroristes parce qu'ils perturbent l'ordre public, parce qu'ils ne laissent pas les gens aller travailler, tout ça. Donc même les grèves générales, ils sont nommés comme des terrorismes parfois.
Una vieja calle de un viejo barrio viven día a día los condenados, no tienen la culpa y lo van pagando. En esa vieja calle del viejo barrio viven al amparo de la suerte, un día de risa, otro de llanto, noches de vino y juerga. En esa vieja calle del viejo barrio donde la luna brilla cada noche, amanece el día más temprano. En esa vieja calle del viejo barrio, poeta y soñador, un viejo va cansado. Sueña que corría cuando era niño y sabe que su vida se le va acabando. Así un día y otro, la historia de siempre. En esa vieja calle del viejo barrio, donde los niños pronto se hacen hombre, viviendo día a día los condenados. Nai, 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 calle del viejo barrio, poeta y soñador, un viejo va cansado, sueña que corría cuando era niño y sabe que su vida se le va acabando. Así un día y otro, la historia de siempre. En esa vieja calle del viejo barrio, donde los niños pronto se hacen hombre, viviendo día a día los condenados.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kaleidoscope avec l'émission Les Murs ont des oreilles. Je rappelle les contacts de l'émission si vous voulez nous contacter par écrit à l'adresse suivante: Radio Kaleidoscope, Les Murs ont des oreilles, BP 422 38 018 Grenoble CEDEX, Vous pouvez aller voir notre blog aussi, on est en train de le réparer, ça arrive. À l'adresse les murs ont des oreilles tout attachées et au pluriel, @noblogs.org. Et vous pouvez nous contacter par mail à les murs au pluriel tout attaché, @riseup.net, riseup.net. Donc vous avez pu écouter un morceau de musique, un flamenco anticarcéral de la compile Viva la Libertad, Mueran las Cárceles, qui est une compile de musique flamenco qui a été rééditée il n'y a pas très longtemps pour en soutien aux personnes incarcérées dans les dernières opérations policières en Espagne.
Et vous avez écouté aussi un morceau d'une manifestation et en solidarité avec les anarchistes détenus et pendant les opérations Pandora et Piñata. Et avec des phrases et qu'on liberté pour les détenus pour se battre. Et Pandora, Piñata, on s'en fout et on a toujours l'envie de lutter. La démocratie torture et assassine et abat les murs des prisons. Et c'était un peu pour montrer la solidarité qu'il y a et autour dans les mouvements anarchistes, dans les prisons et aussi dehors la prison avec plein de mobilisations. Et en fait, en Espagne, depuis les années 90, il y a eu plein de luttes dans la prison, des grèves de faim et de travail, et pour lutter contre les FIES, que c'est un régime spécial de lequel on va parler après. Et maintenant, on va parler des dernières opérations contre un collectif anarchiste qui s'appelle Strident Madrid. Et c'était l'année dernière, en novembre, en 2015. Et du coup, les Strident, c'est une subculture, un mouvement autour des hardcore et contre les drogues qui est né dans les années 80 et en réaction à l'autodestruction qu'il y avait dans les punks. Et c'était un peu pour dire, en fait, on aime bien les punks, on aime bien les hardcore, mais on est contre les drogues et on veut être avec santé. Et du coup, il y a un parti de les Strident et dans lequel il fait partie, les Strident Madrid, qui fait une politisation de les Strident et ils disent en fait c'est pas seulement pour santé qu'on prend pas de drogue, mais c'est parce que ça c'est un frein pour le mouvement social. Et en fait, si on n'aime pas la réalité qu'il y a, il faut pas se battre et prendre les drogues, mais il faut la changer et avec la lutte sociale. Et du coup, c'est un collectif vegan et en fait qui lutte contre toutes les oppressions, soit des racismes, des genres. Et des droits des animaux. Et ils ont plein de luttes autour des mouvements queer et surtout animalistes. Et c'est une activité, à la fin, c'est moitié politique, moitié culturelle, avec des soirées, des concerts, des repas végans, et toujours et livre des drogues. En fait, ils essayent de faire des espaces où la diversion, c'est pas autour des drogues, mais autour de la lutte sociale et la politisation des gens. Et du coup, cette opération Nice, que c'était en novembre, et ça commence avec la perquisition de 6 maisons de 6 membres des collectifs. Et ils sont arrêtés à 6 ou 7 heures du matin. Et ils ne savent pas pourquoi, ils savent seulement que c'est avec l'accusation de terrorisme. Et du coup, ils vont en commissariat. Et ce soir, ils prennent les preuves de ce terrorisme. C'est des drapeaux antifa, des habits Strident, des affiches avec les convocatoires des concerts ou des débats, des projections. Et des stickers, des propagandes, c'est les médias qui le disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils disent qu'il y avait des propagandes de l'EGAC, que c'est les groupes anarchistes coordonnés, ils disent que c'est terrorisme, même si ce n'est pas encore prouvé. Et ce qu'ils disent, c'est des explosifs, qu'en vrai c'est des pétardes et des clous. Qu'ils disent que les clous, c'est pour fabriquer des explosifs. Et n'importe qui peut avoir des clous, mais bon, et ça, c'est un prouve pour dire que quelqu'un est terroriste. Et du coup, ils passent à l'audience nationale de laquelle on va parler après. Et là, ils déterminent que deux personnes vont entrer en prison provisoire, qui sont Borja, de 19 ans, qui a après 15 jours là-dedans, et ils sortent. On se demande pourquoi ils le font entrer 15 jours en prison, et c'est seulement pour faire peur, en fait. Et Nahuel, qui est toujours là depuis 6 mois, et de lequel on va parler aussi après. Les autres 4 personnes, ils sortent et en payant en total 20 000 euros, autour de 20 000 euros. En fait, l'investigation de l'opération ICE commence en 2013, en 2014, avec les marches de la dignité, que c'était des grosses manifestations qui se sont faites. En fait, c'était contre la crise économique qu'il y avait en Espagne et contre le chômage. Et c'était des grosses marches qui commençaient dans différentes villes de l'Espagne et finissaient tous en Madrid. Et là, il a eu des émeutes, il a eu plein de détentions, et là, il avait des détentions de gens de cette collective-là. Après, au début de l'année dernière, il a eu quelqu'un qui a brûlé un banque, il a fait l'attaque à un banque. Et du coup, là, à côté de la banque, il avait des graphes, et un c'était de Stades Madrid, où il disait « morte au capital », je pense, et un autre, d'un autre collectif de jeunesse libertaire. Et même si c'est grave, c'était déjà là deux semaines avant l'attaque à cette banque. Et même s'il y avait des graves partout les quartiers, ça c'était assez pour la police pour dire ok, c'était Strides qui a fait ça. Et du coup, bon, ils ont commencé à investiguer et ils ont trouvé une vidéo sur internet et que en fait dit que la lutte si c'est pacifiste ça sert à rien. En fait c'est un documentaire, mais la police elle dit que c'est apologie de terrorisme et du coup ce qui est fort c'est que les accusations qu'ils font que ça c'est l'attaque à un banque et un vidéo sur YouTube que ça pourrait être vandalisme et même si on ne sait pas encore si c'était eux mais c'est assez pour dire que c'est du terrorisme. Il faut dire que les avocats, au début, ils ne savaient rien, et du coup, les avocats, ils ont fait en défense sans savoir quelles étaient ces accusations. Et ils avaient plus d'informations par la presse que par d'autres moyens. Parce qu'en fait, dans la presse, il y avait même des transcriptions des conversations au téléphone des gens qui avaient été détenus. Et on va parler de l'audience nationale, que c'est un tribunal spécial qu'il y a en Espagne, avec juridiction dans tous les territoires espagnols, qui fait des questions spéciales. Et il fait l'investigation, les jugements et la vigilance pénitentiaire, des questions considérées complexes et avec un certain risque pour les juges, qui sont le terrorisme, les narcotrafics, la falsification de la monnaie ou les crimes organisés, entre autres. Et comme par hasard, il est créé en 1977, le même jour qu'est fini le tribunal d'ordre public et franquiste qu'il y avait pendant la dictature espagnole et qui faisait les questions de juger les délits politiques. Et même maintenant, le tribunal constitutionnel dit que ce n'est pas un tribunal d'exception, et c'est un tribunal de spécialisation pour des questions complexes, mais en fait c'est un tribunal d'exception parce qu'il enlève le droit à avoir un juge et naturel de ton propre région, du coup il t'oblige à bouger de ton région. Et il permet l'incommunication et les premiers jours avant de... En fait, quand tu es détenu, il a l'incommunication même avec ton avocat. Et en fait, il a un grand pouvoir et il est aussi, il permet que les investigations soient secrètes et du coup, il fait que les avocats ils savent rien et jusqu'à pendant des mois. Et on va parler aussi de les FIES, que c'est un régime spécial.
Et du coup, les FIES, c'est un régime d'enfermement spécial particulièrement dur à l'intérieur des prisons espagnoles. Et d'ailleurs, c'est souvent à l'issue d'audience nationale, j'imagine, que les gens atterrissent dans ces régimes-là. Que c'est à l'intérieur de... Enfin, c'est quand les gens passent aux audiences nationales, ils ouais. atterrissent souvent dans ces régimes-là. Ouais. Du coup, les FIES, c'est pour Fichero de Interno Especial Seguimento. Ce qui veut dire fichier de suivi interne spécial et qui classifie les détenus en différentes catégories. Et ça a été conçu à l'époque par le ministère de l'Intérieur, Antonio Asunción. Du coup, j'ai cherché un petit peu pour savoir qu'est-ce que c'était exactement et comment c'était classifié. Et en fait, j'ai trouvé un témoignage d'un prisonnier qui a fait 26 ans de tôle dans les geôles espagnoles et qui raconte un petit peu, lui, il était là à l'époque où ça a été... où ça a été mis en place, les FIES. Et voilà, et du coup, j'avais envie de vous lire un peu des extraits de son interview. Il s'appelle Laudelino Iglesias. Il est aujourd'hui sorti de prison. Il est rentré pour la première fois en prison dans les années 80. Et voilà, il a fait pas mal partie de prisonniers sociaux qui se sont bougés à l'intérieur. Du coup, voilà ce qu'il raconte. En 1991, une circulaire intérieure de l'administration pénitentiaire a mis en place le régime Fies 1. L'État avait déjà prévu ce projet, mais il n'y a jamais eu de loi votée là-dessus. Il y a eu la conjonction de deux événements. Une mutinerie à laquelle j'ai participé, à Valladolid, et dans une autre tôle. Un règlement de compte entre deux prisonniers où l'un a tranché la tête de l'autre. Évidemment, ça a fait scandale et les autorités ont profité du relais médiatique et de quelques manifs de familles de prisonniers demandant la sécurité pour leurs enfants pour appliquer immédiatement ce régime Fies 1. Comme les prisonniers de la GAPEL, groupe armé de prisonniers en lutte, étaient dispersés, ils ont commencé par nous rassembler dans deux prisons, celle de Badajoz et de Séville 2. Au début, nous étions environ 250, car ils ont ratissé large. Ensuite, ils en ont remis à l'isolement et à la fin, nous étions une cinquantaine. À peine étions-nous arrivés dans ces prisons qu'ils nous ont enlevé tout ce que nous avions et nous nous sommes retrouvés en caleçon. Comme nous refusions de porter l'uniforme des taulards, mesure qu'ils auraient ensuite pu généraliser à tous les autres, nous sommes restés quasiment nus. Ils nous ont mis chacun au mitard, avec un matelas par terre, une assiette et une cuillère en plastique, une brosse à dents sans manche et du dentifrice. Au début, nous n'avions pas de promenade, ensuite c'était une heure par jour, seule. On nous changeait de cellule tous les jours avec des fouilles à corps et les menottes dans le dos. Nous ne pouvions communiquer ni avec nos proches, ni avec les avocats. Au bout de 3 mois, nous avons obtenu de pouvoir correspondre sous surveillance, 2 lettres par semaine d'une page écrite en gros caractères, ainsi que des parloirs, 1 par semaine de 20 minutes avec hygiaphone, toujours menottés dans le dos et en présence d'une dizaine de matons avec nos familles et les avocats. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à dénoncer notre situation à l'extérieur par courrier, en envoyant des requêtes et dénonciations à toutes les institutions judiciaires. Quand les modules FIES ont été prêts, en 1993, ils nous ont répartis dans les différentes prisons qui en étaient équipées, 6 ou 7 au début. Les transferts étaient continuels de cellule à cellule et très fréquents d'une tôle à l'autre. Ensuite, il décrit un petit peu les conditions de transport, mais là, je n'ai pas le temps de le lire. Et là, du coup, il parle notamment des FIES 1. Du coup, en fait, il y a 5 types de FIES. Le FIES 1 dont il parle, ça a été mis en place justement pour les prisonniers sociaux considérés comme très dangereux par l'État à cause des tentatives d'évasion ou d'agression du personnel pénitentiaire. Il est doté de modules spécifiques de sécurité maximale. Ensuite, il y a le FIES 2 qui est un système de contrôle et de protection pour les personnes qui tombent pour trafic de drogue. Le FIES 3 qui est destiné aux bandes armées et aux dits et considérés terroristes. Ce régime il prévoit le contrôle des communications et de nombreuses fouilles. Il a aussi de nombreux cas d'isolement au premier degré et les transferts se font dans les mêmes conditions qu'en FIES 1. Le FIES 4, c'est pour les fonctionnaires de l'État condamnés à des peines de prison. Du coup, les policiers, les matons, les guardias civils, c'est une sorte de régime de protection. Du coup, c'est pas du tout les mêmes conditions d'incarcération que les autres FIES. Le FIES 5, c'est réservé aux délinquants sexuels pour les séparer des autres prisonniers. À l'intérieur des diverses catégories, il existe des régimes à différents degrés. Le premier, l'isolement, le deuxième, vie normale, et le troisième, juste avant la sortie, ou une liberté conditionnelle. Du coup, ensuite, Laudelino, il raconte un petit peu, ça ressemble à quoi un module FIES. Les modules FIES ont environ 8 cellules chacun, mais il n'y a jamais plus de 4 prisonniers par module, afin qu'une cellule vide sépare toujours les cellules occupées. Cela permet à la fois de réduire les possibilités de communiquer et de changer fréquemment les détenus de cellules pour les fouilles. Les modules sont complètement automatisés. Les portes sont ouvertes à distance par un gardien dans un box blindé avec des écrans télé. La fenêtre et les portes de la cellule sont surveillées par caméra. Il y a 2 portes, la première en fer massif, l'autre à barreaux. La fenêtre a aussi des barreaux de sécurité en acier renforcé. Tous les couloirs minuscules du module sont surveillés par caméras équipées de détecteurs de métaux. Les cours de promenade sont en béton, elles font 8 mètres carrés et sont complètement vides, pas de banc, pas de toilette. Les murs, hauts de plus de 3 mètres, sont surmontés de deux rouleaux de barbelés à pic. Le dessus est recouvert par une rangée de barreaux et un rouleau de grillage. Il y a 3 cours dans chaque module, comme ça tu ne sais jamais dans quel cours tu vas aller, ni à quelle heure ou éventuellement avec qui. La cour est aussi surveillée par des caméras et les matons communiquent par des micros. Dans les cellules, les interphones leur permettent aussi d'écouter les bruits suspects. Il est interdit de parler aux autres détenus et quand ils se rendent compte d'une communication, ils balancent du gaz lacrymo à l'intérieur. Mais bon, on continue. On va pas rester sans parler quand même. Les FIES 1 sont des modules de sécurité maximum. À l'intérieur des prisons de sécurité maximale. Ils sont conçus non seulement pour te placer à l'isolement, mais surtout contre les évasions. Une autre façon d'éviter les tentatives, c'est de mettre dans le même module des prisonniers dont on pense qu'ils sont incompatibles. C'est à ça que servent les études de comportement. Les matons arrivent aussi souvent à diviser, à monter les prisonniers les uns contre les autres. Du coup, ensuite, ils parlent qu'il y a eu un gros mouvement contre les FIES fin 99, début 2000, avec de nombreuses grèves de la faim. Ils ont été 200 prisonniers à faire des grèves de la faim et tout ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de résultat à cette lutte. Du coup, il y a eu des sanctions qui sont tombées et tout ça. Mais là où Delino, il en parle aussi comme quelque chose de positif parce que ça a permis vachement de discuter entre les prisonniers et de parler de leurs conditions de détention et tout ça. Du coup, voilà pour les FIES. On va s'écouter un petit morceau de musique.
Et c'est Querer la liberté et Vouloir la liberté de Accidente. Il fait une reprise d'un autre groupe qui s'appelle Duelo. C'est hardcore et punk et mélodique de Madrid. Et bonne écoute.
De las aves migratorias y me hace sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, pues no, pero es lo mejor. Ves, es nuestra posición, que somos uno más. Que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad, hay que reconocer que no somos los únicos en querer.
On va parler maintenant de Nahuel, qui est le prisonnier de l'opération ICE, qui est toujours en prison depuis 6 mois. Et il est entré parce que le juge il disait qu'il a risque de fuite et il n'y a pas garantie de représentation. Et son avocat il a déjà présenté 3 ou 4 recours. Et les premières, c'était sans avoir aucune information. Et du coup, il a été dénié. Et après, il a présenté un deuxième recours et il a montré que les papiers de l'université, des différents cours qu'il faisait. Ils ont présenté aussi des contrats de travail. Ils ont présenté les activités de Strides pour dire qu'en fait, ce n'était pas des activités terroristes, c'était plutôt des activités culturelles. Et mais du coup, ils ont dit que non, qu'en fait, comme Nahuel, il est migrant d'origine péruvienne et il a risque de fuite et il n'est pas assez attaché apparemment en Espagne. Ils ont présenté encore un autre recours et ils ont dit que non, parce qu'en fait, il n'a pas présenté activité de travail depuis 2012, comme si être en chômage et c'était un cause de possibles fuites. Et du coup, il écrit, et il est entré en FIES 3, Il a toutes ses communications intervenues. Il a pas le droit de sortir de sa cellule, deux heures par jour. Et il raconte que sa lutte, il continue à l'intérieur de la prison, qu'il ne va pas s'arrêter une fois qu'il est entré. Et du coup, sa lutte, il a commencé pour recevoir un régime végan, parce que lui, il est végan, et à la prison, même s'il a le droit d'avoir la diète végan, il ne la recevait pas. Et du coup, il a eu plein de mouvements de solidarité avec des gens qui envoyaient les lettres à la prison pour dire qu'en fait, c'est son droit et il devait avoir un régime végan. Par son idéologie, son religion, en fait, tout le monde a le droit d'avoir un régime spécial. Et du coup, finalement, il a eu son régime. Et après parler avec plusieurs prisonniers, il y a eu d'autres prisonniers qui ont demandé aussi un régime, je ne sais pas si végan ou végétarien. Et il a dénoncé des tortures à l'intérieur de la prison. Et du coup, il a été changé de prison 3 fois et en 6 mois, que c'est vraiment beaucoup, et toujours en isolement. Et du coup, la semaine dernière, il était changé de prison une autre fois. Et maintenant, ils l'ont envoyé au Sevilla, qui est à 530 km de Madrid. Du coup, ça fait que sa famille, ses amis qui allaient toutes les semaines, il avait le droit, je pense, à une visite par semaine. Et ça va faire difficile, ça. Et ouais, c'est à mesure des tortures aussi à la famille et aux amis. Il parle aussi de la présence des drogues à l'intérieur de la prison, les légales et les pas légales. Et il écrit ça dans sa lettre, que je ne sais pas trop comment il a fait pour sortir de la prison, parce que c'est vachement critique, et on va la lire.
Peut-être je suis seule ici, mais merci beaucoup à tous mes frères et sœurs du monde entier qui font que je sente votre chaleur et votre paix. J'apprécie beaucoup les lettres que vous m'envoyez. Je sens votre amitié, vous êtes proche de moi. En prison, être végane et se tenir loin des drogues est vachement difficile. Les drogues sont présentes du matin au soir et pas seulement les illégales. Les docteurs administrent aux prisonniers des cachets qui font que tu te comportes comme un zombie et si tu causes des problèmes, ils te feront prendre de l'hexatin, par la force. Cette merde-là te casse complètement et te laisse comme un mort-vivant. J'ai déjà écrit sur les problèmes d'être végane en prison, mais le trafic des drogues, ici, à l'intérieur, c'est un véritable problème. Les détenus sont presque tous les jours soit surexcités, soit vidés. La drogue circule sans aucun obstacle, sans problème, et la marchandise est vendue et consommée rapidement avec facilité. Je suis dans le bloc module 3, il est supposé être spécialement conçu pour enfermer les gens avec des problèmes d'addiction, mais ça ne marche pas. Des fois, quand tu entres dans la salle de bain, tu peux sentir l'odeur de l'héroïne brûlée, et il faut faire très attention pour ne pas trébucher sur les seringues répandues qui sont par terre. Souvent, je peux voir des prisonniers qui parlent ou qui rient et crient tout seuls, ou encore paralysés pendant plusieurs minutes. Les vomis et les problèmes de respiration sont très habituels le mercredi, le jour où ils reçoivent l'argent de leur famille. Je ne peux pas les blâmer, je pense que c'est leur façon d'échapper à une réalité de merde. Au bout du compte, chaque jour est le même que le précédent. On se lève à la même heure, on mange, on se promène, on lit et on dort. Et tout recommence encore une fois le lendemain. Certains ont perdu leur famille, leur femme ou simplement les gens de l'extérieur ne s'occupent plus d'eux. La souffrance quotidienne et la cohabitation dans un lieu bondé de plus de 100 personnes, c'est difficile à vivre. Et encore, nous sommes dans le bloc d'aide aux personnes avec des problèmes d'addiction, je ne veux pas penser à comment doit être la situation dans les autres blocs. De l'autre côté se trouvent les drogues légales. Les drogues de l'État, les bonnes, les cachets qui te rendent zombie sans que tu t'en rendes compte. La drogue spéciale pour les rebelles. Il y a un cachet spécial pour chaque problème. Un cachet capable de traiter la folie, qu'elle soit réelle ou non. Il est clair qu'être rebelle ou insubordonné, c'est considéré ici comme un acte de folie. Si tu te révoltes, c'est que tu es fou et les bons docteurs de la prison ont des drogues spéciales pour toi. Être pauvre doit aussi être une maladie, parce que les docteurs ont carrément des médicaments pour ceux qui volent. Tu luttes pour tes idées, ok. Il y a pourtant un remède sain qui s'appelle liberté, mais pour eux c'est beaucoup plus facile de t'enfermer en régime de sécurité maximale, fies. Les prisonniers connaissent la problématique des drogues. Je veux dire, tous ne sont pas addicts, certains boivent même rarement d'alcool. Pour moi, c'est la fumée des cigarettes qui est le pire problème. Merde, chaque fois que je rentre dans une cellule, il y a quelqu'un qui fume. Dans ce quartier pourtant spécialisé des problèmes d'addiction, fumer n'est pas considéré comme un problème. Comme un travailleur me l'a dit, il serait très radical d'interdire de fumer, mais ensuite tous ces prisonniers développent des cancers du poumon et personne ne voit le lien. Le 90% de prisonniers sont ici pour 2 raisons, être pauvres et puis bien sûr à cause des drogues. Pour les avoir vendus, dealés, cachés ou pour avoir commis un crime sous leur influence. Oui, c'est la merde, mais la prison n'est pas la solution. Certains sont devenus accros ici. Ce lieu est comme un monstre qui dévore les personnes. Un monstre créé par et pour que le système se perpétue. Un jour, les prisons seront du passé. Ce jour arrivera. Mais maintenant, la résistance est la seule manière de faire ce que ce jour arrive. Personne ne croyait que l'Empire romain s'effondrerait. Cancion. Il y a plus de 2 mois, depuis que je suis enfermée ici, j'ai été arrêtée avec 2 amis pour avoir fait partie du Straight Edge Madrid. Le gouvernement nous considère comme un groupe terroriste. La raison ? Faire partie des luttes contre le gouvernement, ici, en Espagne. Pour faire partie des gens qui ne laisseront jamais seuls les personnes qui ont perdu leur foyer, moi, comme mes amis, on faisait partie du mouvement contre les expulsions de logements et aussi du mouvement pour la libération animale. Ils disent que nous sommes des terroristes. Ils disent que je suis un terroriste. Mais on était seulement un groupe d'amis avec l'envie de créer un espace libre de drogue dans les lieux hardcore punk, antifascistes et anarchistes de Madrid. On voulait montrer que le straight edge est beaucoup plus que des baskets chères, des mosh pits ou des danses sur la scène. Ça signifie déclencher un changement. Je suis prisonnier en Fies 3, prisonnier de sécurité maximale, considéré comme terroriste. Je peux seulement envoyer 2 lettres par semaine, toutes mes communications sont interceptées et je suis constamment surveillé. Je ne veux pas parler de ma tristesse ou de ma douleur. Si vous ne savez pas ce que c'est le régime Fies, je vous recommande le livre Huye Hombre Huye de José Tario, un autre prisonnier Fies. Je me sens vidée, mais j'ai le soutien de mes amis, des personnes qui me sont chères, de ma mère. Elle m'avait dit une fois, si tu tombes, ce n'est pas grave, je suis là pour te soutenir. C'est pour ça que la seule chose que j'ai en tête, c'est la résistance. Rester végane ici, c'est salement difficile, mais pas impossible. De toute façon, la vie animale dans les fermes, les zoos et les laboratoires est particulièrement plus dure qu'ici. Même si je dois manger uniquement du pain et des pâtes, je refuserai de soutenir la cruauté envers les animaux. En plus, je suis content d'être sous straight edge et de ne pas faire partir de ce monde de drogue. Je ne pense pas changer de posture. Je suis en prison, c'est quelque chose auquel je dois faire face. Je ne suis pas libre, c'est un fait. Mais il y a beaucoup d'autres animaux qui ont besoin de votre aide, qui réclament leur liberté, qui crient pour que vous les libériez. Il y a encore des gens qui n'ont ni où dormir, ni de quoi manger, et nous pouvons les aider. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, et qui aujourd'hui risquent leur vie pour recommencer. Ma situation n'est rien en comparaison de celles et ceux dont la vie en soi est une souffrance. Je n'écris pas pour être soutenue, mais pour que ma voix soit entendue ou lue en dehors de ces murs. Je ne veux pas que vous me souteniez moi, je veux que vous souteniez la cause de la libération animale, au mouvement de libération de la terre. Chaque action est un pas vers la construction d'un monde meilleur. Pour toutes les véganes, straight age, punk, jeunes du hardcore, je choisis ici parce que dans ce monde, il y a seulement deux alternatives, obéir ou lutter. Et moi j'ai choisi la dernière, la plus difficile. Maintenant je suis loin de ma famille et de mes êtres chers, mais j'espère que cette lettre permettra de me rapprocher de vous tous. Je sais que ce que je dis peut paraître fou, mais ce n'est pas impossible. Si on reste unis, on peut le rendre possible. Pour tous les gens qui ont lutté contre les injustices, pour nous offrir le rêve d'un monde meilleur, pour tous ceux qui continuent de lutter dans le monde entier pour qu'arrive ce changement, juste en créant des espaces et des lieux qui nous sont propres, des réseaux de solidarité avec les autres camarades, nous pouvons en faire une réalité. Je suis pauvre, immigrant, péruvien, un SPIC, terme péjoratif pour désigner les latino-américains aux États-Unis. Pour la police, je suis vegan, straight edge. Ce monde est merdique, mais je continue à croire au pouvoir que nous avons de le changer. Donc s'il vous plaît, faites que ce nouveau monde soit une réalité. Donc c'était le texte de Nawel. Si vous aussi, vous souhaitez lui écrire ou lui témoigner son soutien, vous pouvez le faire à l'adresse donc Juan Manuel. J'appelle, c'est peut-être plus simple si... J-U-A-N, plus loin M-A-N-U-E-L, Bustamante, donc B-U-S-T-A-M-A-N-T-E, Vergara, V-E-R-G-A-R-A, CP, donc pour centre pénitentiaire, Sevilla 2, Parare, P-A-R-A-J-E, de las Mesquitas, D-E, plus loin L-A-S, plus loin M-E-S-Q-U-I-T-A-S, C-R-T-R-A, SE 451, kilomètre 5,5,41530, Moron de la Frontera, Sevilla, Espagne. Et vous pouvez également lui écrire ou suivre l'actualité sur son blog, plataformanawellibertad.blogspot.com, donc P-L-A-T-A, F-O-R-M-A-N-A-H-U-E-L, L-I-B-E-R-T-A-D. C'est fou.
C'est sur ce blog aussi qu'on peut télécharger.
Le CD.
Donc on peut acheter la compile dont on a entendu un morceau en soutien à Nawel.
Et on peut aussi envoyer des messages de soutien à la famille et chercher plus d'informations.
Et du coup, on va de toute façon mettre toutes les informations sur le blog. Donc voilà, est-ce qu'il y avait encore des informations à transmettre ?
Non, vous pouvez lui écrire en sachant que tous ses courriers sont lus comme il en parle dans, son, dans sa lettre. Donc faire attention à la censure, sinon il ne recevra pas le courrier.
Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Peut-être juste vite fait, on a eu vent qu'il y avait des mouvements à Fresnes. Est-ce que c'est possible d'en parler en trois mots ?
Il y en a dire ça rapidement. En fait, on avait parlé des mouvements à la Maison d'arrêt des femmes de Fleury. Donc maintenant, il y en a aussi à la Maison d'arrêt de Fresnes. Donc là, c'est pareil, c'est les femmes qui se sont mises en mouvement, qui ont bloqué des promenades pour dénoncer les conditions qu'elles avaient là-bas. Et du coup, la Maison d'arrêt des hommes à côté, ils ont lancé une grève de la faim aussi. Voilà.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain, le 15 juin, pour une nouvelle émission. Et puis, bonne soirée à vous et bonne écoute sur Radio Kaléidoscope.
À bientôt.
À bientôt. Salut.
Thank you.